une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle parce que leurs troupes s'y honorent.
Billet d'Afrique de ce mois de juin 2025 est inspiré de la revue de l'association Survie, Billet d'Afrique. Cet épisode est le dernier de la deuxième saison de l'émission. Valou et moi espérons que nos efforts sont une goutte de plus pour la prise de conscience collective des injustices du monde humain et de ce qui est fait en notre nom, nous le peuple, par nos dirigeants et leurs complices entrepreneurs commerciaux et autres. Portez-vous bien, résistons. Impunité maximale en Guinée-Conakry. Le 28 mars dernier, le chef de la junte guinéenne Mamadi Doumbouya a gracié l'ancien dictateur sanguinaire Moussa Dadis Camara, pourtant condamné en 2024 à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité. Une libération dénoncée entre autres par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU et la Fédération internationale pour les droits humains. Elle consacre un régime d'impunité pour le pouvoir guinéen. Les militants Fonike Mengue et Mamadou Biloba ont par exemple été enlevés par les forces spéciales en juillet 2024, le journaliste Marwan Camara par des gendarmes en décembre, l'opposant Abdoul Sakho a été roué de coups lors d'une arrestation le 18 février dernier. Comment réagit la diplomatie française à cette dérive? Elle maintient un dialogue exigeant avec les autorités de transition guinéennes, dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, questionné sur ces trois cas de violation des droits de l'homme. Dialogue, c'est certain, mais exigeant pas trop. Le mois de septembre 2024 a vu la réintégration de la Guinée au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. La coopération militaire française se veut discrète, mais a été renforcée. Et pourquoi continuer à appeler l'autorité de transition une junte brutale, n'ayant aucune envie de passer la main? Il faut bien flatter l'ancien légionnaire Doumbouya. Il y a un an, le gouvernement français tentait d'éteindre le feu qu'il avait lui-même allumé en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, en faisant abattre sur le monde Kanak une répression féroce et en bloquant TikTok. En interdisant le réseau social, une première, la France faisait alors sienne une pratique courante des régimes autoritaires depuis la Chine jusqu'à la Russie, en passant par l'Iran. L'association La Quadrature du Net déposait immédiatement aux côtés de la Ligue des droits de l'homme un recours devant le Conseil d'État, dénonçant un coup inédit et particulièrement grave à la liberté d'expression en ligne. Recours rejeté le 23 mai 2024. Il faudra finalement attendre 24 heures après la fin de l'état d'urgence dans l'archipel pour que le blocage du réseau social soit levé. Quadrature et LDH ont persévéré et attaqué de nouveau la mesure, cette fois via une procédure classique. Résultat, ce 1er avril, le Conseil d'État a jugé illégal l'interruption de TikTok tout en laissant les mains libres, ou presque, à l'exécutif pour recommencer en cas de circonstances exceptionnelles. À savoir qu'un tel blocage soit indispensable face à des événements d'une particulière gravité sans qu'aucun moyen technique ne permette de prendre des mesures alternatives immédiates. Tout sauf une victoire donc pour la Quadrature, qui voit dans cette décision un mode d'emploi pour le fascisme montant. Décidément, les colonies d'outre-mer sont toujours bien utiles à nos gouvernements pour expérimenter la future démolition de nos droits. Un front uni pour démilitariser l'impérialisme. Survie a rejoint la coalition Guerre à la guerre aux côtés d'une vingtaine d'organisations et collectifs. Une démarche dans le prolongement de ses combats anticoloniaux et antiracistes de toujours. En 2022, Emmanuel Macron a choisi Eurosatory, le Salon mondial de la défense et de la sécurité, pour officialiser l'entrée en économie de guerre. Une occasion rêvée pour traduire ce choix politique en chèques. Ces routes internationaux permettent aux industries et États de mettre en vitrine leurs nouvelles technologies et de créer leurs conditions d'utilisation. La France et ses entreprises leaders sur le marché, comme Thales ou Safran, est le deuxième marchand de mort au monde. En 2024, le pays des droits de l'homme a engrangé 18 milliards d'euros de prises de commandes grâce aux ventes d'armements dans une opacité bien utile pour taire les complicités de crimes. Notre pays a bien ratifié en 2014 le traité sur le commerce des armes qui interdit d'exporter des dispositifs qui pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, contre des civils et d'autres crimes de guerre, mais ces lignes rouges n'ont jamais été respectées par la 7e puissance mondiale. Bien avant les actuelles livraisons à l'armée israélienne en pleine extermination des Palestiniennes et Palestiniens, Paris avait déjà l'habitude d'approvisionner les régimes criminels, l'Égypte ou le Tchad, pour ne citer que deux exemples récents en Afrique. Même si elle est aujourd'hui soumise à autorisation, l'exportation de biens à double usage, à savoir civil et militaire, continue de faciliter les transactions illégales. Conflits et répression deviennent ensuite des publicités à ciel ouvert. Longtemps boudé, le Rafale a trouvé acheteur une fois éprouvé au combat, comme lors des opérations militaires françaises en Libye et au Mali. Merci pour votre double mission, à la fois opérationnelle et commerciale, aurait ainsi résumé François Hollande en s'adressant aux pilotes français en 2013. C'est dans le Canard enchaîné, le 16 janvier 2013. La guerre contre le terrorisme au Sahel, à l'instar de toutes les opérations militaires en Afrique depuis des décennies, a confirmé que l'ancien précaré colonial était un laboratoire idéal pour tester doctrine et matériel. La francophonie aussi est un vecteur d'ouverture des marchés d'armes et de la coopération militaro-policière au cœur du soutien au régime autoritaire france-africain. Les guerres impérialistes visent à maintenir l'ordre capitaliste et colonial. Pas étonnant dès lors que ces logiques de hiérarchisation des vies se prolongent dans une guerre raciste contre les ennemis de l'intérieur, les territoires dits d'outre-mer, les quartiers populaires, les exilés aux frontières. Les violences d'État ont battu plusieurs records en 2024, depuis le nombre de crimes policiers recensés jusqu'aux morts en Méditerranée, ça c'est l'ONU, sans oublier la répression contre le soulèvement kanak indépendantiste. Depuis des décennies, l'association Survie documente le rôle du complexe militaro-industriel dans le néocolonialisme français en Afrique. Avec l'Observatoire des armements, l'association a notamment interpellé les députés sur les violations d'embargo en 2016 et relancé une plainte sur les livraisons d'armes françaises pendant le génocide des Tutsis en 2017. Et en 2024, elle a participé à une campagne unitaire pour un retrait total et rapide de l'armée française d'Afrique. Ce combat se poursuit aujourd'hui au sein de la coalition « Guerre à la guerre », qui rassemble une vingtaine d'organisations au positionnement par ailleurs très divers sur la question de la lutte armée. Mais les débats ont été mis de côté pour l'heure, face à l'urgence de désarmer le système impérialiste et raciste pour construire un monde libéré de la violence d'État et du colonialisme. Des événements à travers la France s'organisent pour relancer un antimilitarisme populaire jusqu'à la mobilisation massive prévue lors du Salon de l'aéronautique du Bourget autour de trois luttes principales contre l'économie de guerre, destructrice sur le plan humain, social et environnemental, contre le business de la guerre au profit des puissances impérialistes, contre la participation des délégations israéliennes impliquées dans le génocide en cours. Face à un système structuré par la violence, le racisme et l'impunité au profit des classes dominantes, il est temps de faire collectivement guerre à la guerre et d'enrayer cette machine de mort. Le 11 mars dernier, la Commission européenne présentait sa proposition de règlement visant à favoriser les expulsions d'étrangers en situation irrégulière sur le sol européen dans la continuité du pacte sur l'asile et la migration. Si l'objectif affiché par la Commission est de coordonner à l'échelle européenne ces expulsions, il s'agit surtout de durcir le dispositif et de montrer les muscles. Le règlement prévoit notamment la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement du territoire contre les sans-papiers, ce qui signifie dans les faits qu'une personne expulsée d'un État membre de l'Union européenne sera considérée comme renvoyée de tout le territoire européen et ne pourra plus entamer de procédure d'asile dans un autre État membre. Les personnes renvoyées seront soumises à des conséquences claires en cas de non-coopération, comme le refus d'aide sociale ou la saisie des documents de voyage. Autre mesure phare, la volonté d'expérimenter à l'échelle des États des plateformes de retour dans des pays non membres de l'Union européenne qui respectent les normes et principes internationaux en matière de droits de l'homme. On connaît la chanson. Pour justifier cet énième durcissement à l'égard des ressortissants extra-européens, la Commission plaide la nécessité pour les partis du centre démocratique de ne pas laisser la question des expulsions aux populistes. Mais encore une fois, c'est bien l'extrême droite qui se lèche les babines. Chercheur militaire, un extractivisme biomédical. Opération Bangui, promesse vaccinale en Afrique postcoloniale, par Pierre-Marie David, ou comment des recherches sur le VIH en Centrafrique dans les années 80-90 se sont inscrites dans un néocolonialisme scientifique français. Le livre est paru aux éditions Luxe dans la collection Dossier Noir, créée et animée par Survie depuis 1994. Il revient sur la recherche d'un vaccin contre le VIH, mené dans les années 80-90 donc, par les chercheurs de l'Institut Pasteur de Bangui, capitale de la Centrafrique. Sociologue et pharmacien, l'auteur Pierre-Marie David démontre comment cette institution française a pu profiter du contexte néocolonial et des réseaux de la France-Afrique pour servir ses intérêts ainsi que les intérêts de la France et d'autres pays dits occidentaux dans une période de forte concurrence pharmaceutique internationale en se servant de militaires des forces armées centrafricaines. Pierre-Marie David a travaillé en Centrafrique de 2005 à 2008 comme coordinateur de la Croix-Rouge française dans le cadre d'un programme de l'Union européenne pour rendre accessibles les antirétroviraux aux Centrafricains. À l'époque, il y avait dans le pays de l'ordre de 15 à 18% de prévalence du VIH, c'est-à-dire la proportion de personnes infectées dans une population donnée, un chiffre très haut. En 2008, il a fait sa thèse sur l'accès aux antirétroviraux en Centrafrique, étudiant de façon académique comment les traitements transformaient les relations sociales, mais aussi comment ils n'étaient jamais totalement acquis, puisqu'il y avait beaucoup de ruptures de stock sur place. Puis, en post-doctorat de 2015 à 2018, l'auteur a étudié les archives de l'histoire des recherches réalisées sur le sida en Centrafrique. L'ouvrage s'articule autour du concept de l'extractivisme biomédical que Pierre-Marie David explique comme suit. L'extractivisme est un concept qui vient de chercheurs d'Amérique latine, notamment pour mettre à jour un système asymétrique et inéquitable d'exploitation des ressources premières. Il a semblé longtemps acceptable qu'on exploite les ressources de la Terre pour participer au progrès, au développement vu comme universel. Mais ces chercheurs ont démontré à travers le terme d'extractivisme que cette exploitation des ressources ne profite pas de la même manière à tout le monde. Il y a des personnes qui en bénéficient, tandis que d'autres personnes se retrouvent à vivre en subissant toutes les conséquences écologiques, sociales et politiques de cet extractivisme. Dans l'ouvrage, le concept est employé comme une métaphore de la recherche biomédicale dans laquelle les matières premières ne sont pas des minerais, mais les ressources biologiques des sujets, avec cette différence qu'un minerai, une fois exploité, disparaît, contrairement par exemple au sang humain qui se régénère. La recherche biomédicale a toujours été vue comme une manière d'amener un progrès à l'humanité. Mais ce concept d'extractivisme a permis de questionner cette recherche, son asymétrie et d'étudier à quelle humanité elle bénéficie vraiment. Pierre-Marie David s'est intéressé à l'infrastructure plus globale de cette opération Bangui pour comprendre cette recherche menée localement et ses intérêts et ceux des chercheurs et des industries pharmaceutiques qui y travaillaient. Est-ce qu'ils sont passés à côté de certains besoins de la population? Est-ce qu'à travers cette recherche a été faite la prévention qui devait se faire? Est-ce qu'il y a vraiment eu échange de réciprocité permettant aux personnes locales de se former? Toutes ces questions ont amené l'auteur à parler d'un cas d'extractivisme biomédical. Comment l'Institut Pasteur de Bangui, IPB, qui a mené cette opération Bangui, a-t-il bénéficié du système néocolonial qu'est la France-Afrique pour être à la pointe de la recherche contre le VIH? À l'époque, il y a peu d'études qui s'effectuent sur la prévalence du VIH. Les premières ne sont pas vraiment des études épidémiologiques, mais plutôt des comptes rendus des hôpitaux de Bangui dans lesquels les cliniciens, notamment des coopérants français, constatent que beaucoup de gens qu'ils reçoivent sont infectés par le virus. D'un autre côté, il commence à y avoir à ce moment-là une crainte d'une importation du sida en France à travers les militaires français. C'est comme cela que se met en place une première recherche assez confidentielle et secrète sur les militaires basés à Bouar, soit 1500 à 2000 hommes. Dans cette ville, des filles se mettent à disposition des militaires après des rencontres dans des bars et il est connu de tous que circulent des infections. À tel point que l'un des directeurs de la base décrète que ces filles n'auront plus accès au camp militaire. Suite à quoi elles manifestent, bloquent les routes pour pouvoir continuer à travailler et à ramener de l'argent pour leur famille. L'administration militaire a alors recours à de vieilles stratégies appliquées aux troupes coloniales en mission pour s'assurer que les maladies vénériennes soient contrôlées. Les hôtesses doivent passer un contrôle médical pour déterminer si elles sont aptes ou non à effectuer le service et à entrer dans le camp. C'est comme cela qu'une première étude est mise en place sur les filles de Bouar. Pour les autorités françaises, il s'agit de prémunir les militaires français avant tout. Elles passent à côté du problème de santé publique qui est en train de croître en Centrafrique. Mais la hiérarchie militaire va estimer que travailler sur les militaires français n'est pas une bonne idée, car cela attire la lumière sur eux. Les militaires centrafricains représentent dès lors une parfaite opportunité pour poursuivre les recherches sur un public tout autant exposé, mais plus discrètement. La post-colonie est un petit milieu pour les personnes expatriées. Il y a beaucoup de liens entre la hiérarchie militaire et politique française et les chercheurs français de l'Institut Pasteur de Bangui, qui sont d'ailleurs pour la plupart des médecins militaires issus de l'école de services de santé des armées de Bordeaux. Ces derniers savent par ailleurs très bien manier la diplomatie pour faire comprendre aux autorités centrafricaines qu'elles ont elles aussi tout intérêt à travailler sur un vaccin contre le sida. Les autorités centrafricaines demandent parallèlement à l'IPB d'évaluer le taux d'infection dans l'armée, mais aussi de renforcer son centre de transfusion sanguine pour améliorer la prévention de cette maladie naissante. Une demande utilisée par les chercheurs pour leur permettre de continuer à investiguer à la fois pour contrôler la prévalence du VIH, mais aussi pour caractériser les virus qui peuvent se transmettre à l'époque. L'avantage est clair, avoir des sujets de recherche au garde à vous, placés dans des casernes et faciles à retrouver, et politiquement beaucoup moins sensibles que les militaires français. Ce sont des chercheurs américains qui vont finalement révéler l'opération Bangui en faisant part à l'Organisation mondiale de la santé. Lorsqu'ils débarquent en République centrafricaine, ils estiment que localement, les gens se trouvent floués par cette situation. Nous sommes alors en pleine guerre scientifique entre la France et les États-Unis autour du VIH. C'est évidemment un coup dur pour les Français qui profitaient de l'exclusivité de ces recherches en Centrafrique. Ce livre permet de réfléchir à la question de la santé mondiale. Le problème dans cette recherche n'est pas du point de vue de l'éthique procédurale, mais de celui de l'asymétrie de pouvoir qu'il y avait dans la relation entre la Centrafrique et la France, d'où le concept d'extractivisme biomédical. Des asymétries de pouvoir qui amènent certaines personnes à ne pas pouvoir faire autre chose que de rentrer dans une recherche médicale. Après le refus des autorités françaises d'étudier l'entourage de leurs militaires, qui est alors assez désocialisé, assez défavorisé, assez dépolitisé pour devenir un bon sujet biologique de recherche, les militaires centrafricains. Des ONG africaines contre Bolloré. Bolloré de nouveau dans la tourmente judiciaire. Le milliardaire, son fils Cyril et leur groupe sont visés par une nouvelle plainte déposée le 18 mars devant le parquet national financier. Le collectif Restitution Afrique, RAF, regroupant 11 associations au Togo, en Guinée, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, y accuse la multinationale de recel et blanchiment d'actifs à propos des concessions portuaires acquises de manière illicite en Afrique de l'Ouest par sa filiale Bolloré Africa Logistique, concession vendue en 2022 à l'armateur MSC pour 5,7 milliards d'euros. Une coquette somme que Bolloré a réinvestie, notamment dans son empire médiatique, au service de l'extrême droite. Le succès du groupe Bolloré a été largement attribué à des stratégies d'influence délibérées et à l'établissement de liens étroits et assumés avec les élites politiques et économiques locales, dénonce le collectif dans sa plainte. Vincent Bolloré a entretenu des relations étroites avec de nombreux responsables politiques africains et des proches des cercles du pouvoir, poursuit le collectif Restitution Afrique, citant les noms de Biya, au Cameroun, Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, Gbagbo, Côte d'Ivoire, Niasimbe, Togo et Condé, en Guinée. La justice française avait déjà eu, en 2013, à s'intéresser à ces deux derniers, dont Bolloré avait financé illégalement les campagnes présidentielles de 2010 en échange de la concession des ports de Lomé et Conakry. Dans cette affaire, le groupe a été condamné à une amende de 12 millions d'euros en 2021 et le PNF a demandé, en juin dernier, un procès contre Vincent Bolloré pour corruption et complicité d'abus de confiance. Ce que rappelle le collectif Restitution Afrique à l'appui de sa plainte, documentant également d'autres marchés suspects. Il estime que ces affaires obtenues illégalement ont généré des milliards d'euros de revenus, rappelant que la filiale Bolloré Africa Logistique a représenté jusqu'à un quart du chiffre d'affaires total du groupe et jusqu'à 80% de ses profits. Soulignant le préjudice pour les peuples africains, le collectif veut qu'en application de la loi de 2021 sur la restitution des biens mal acquis, Bolloré soit contraint à restituer ses biens aux nations et populations africaines concernées, créant ainsi un précédent juridique contre les multinationales, notamment françaises, accusées d'exploiter des ressources ou infrastructures stratégiques acquises de manière frauduleuse à l'étranger. Un objectif qui, évidemment, a le soutien des anticolonialistes mobilisés notamment dans la campagne des armées Bolloré. À Mayotte, les rêves de l'extrême droite deviennent réalité. Le Rassemblement national, RN, en rêvait, la Macronie l'a fait. Ce mardi 8 avril, avec 162 voix pour et 93 contre, l'Assemblée nationale a définitivement adopté une loi restreignant encore les conditions d'obtention du droit du sol à Mayotte. Ce texte, porté par les Républicains, LR, et soutenu par la majorité des députés RN, impose désormais que les deux parents résident sur le territoire français en situation régulière depuis au moins un an à la naissance d'un enfant pour que celui-ci puisse prétendre à la nationalité française, automatiquement à sa majorité, ou de façon anticipée à partir de 13 ans. Les députés ayant voté cette loi invoquent bien évidemment la sempiternelle rengaine de l'immigration illégale comorienne à Mayotte, pour laquelle la perspective d'acquérir la nationalité française constituerait un aimant. Les mêmes arguments avaient d'ailleurs été employés en 2018, quand la loi votée sous les auspices du gouvernement macroniste exigeait déjà que l'un des deux parents vive en France depuis au moins 3 mois. Mais ce nouveau coup porté au droit du sol sur le territoire maoré constitue un effroyable cheval de Troie de l'extrême droite, comme le rappelle l'ancienne ministre Dominique Voynet. Depuis des années, le RN veut mettre fin au droit du sol sur l'ensemble du territoire français et a déjà fait savoir qu'il voulait étendre cette mesure en commençant par la Guyane. Une grande partie de la droite, dite républicaine, lui a emboîté le pas, à l'instar du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et d'Éric Ciotti, qui déclaraient enthousiastes « Partout sur le territoire national, nous devons supprimer le droit du sol ». L'objectif, à peine voilé, est in fine de liquider le droit du sol au profit du seul droit du sang, sur fond de spectre de la submersion migratoire et du grand remplacement, deux concepts d'extrême droite qui ne laissent pas indifférente la majorité présidentielle. Une fois encore, les colonies, appelées pudiquement territoires d'outre-mer aujourd'hui, se voient infliger les politiques les plus abjectes avec des conséquences dramatiques. La première, c'est l'élaboration perpétuelle d'un véritable droit d'exception dans la plus pure tradition coloniale, qui va de la rédaction du Code noir sous Louis XIV aux arrêtés préfectoraux autorisant l'usage du chlordécone aux Antilles. La seconde, c'est l'expérimentation d'atteintes aux droits contre les populations en dehors de l'Hexagone, qui peuvent ensuite y être importées, comme le détricotage du droit du sol aujourd'hui ou le maintien de l'ordre hier, comme la création de la BAC pour Pierre Belotte, passée par l'Indochine, l'Algérie et la Guadeloupe. Si l'élargissement de cette mesure à l'ensemble du territoire reste pour l'heure un dangereux fantasme de toutes les droites, la nouvelle loi aura rapidement des conséquences concrètes et désastreuses pour la vie des Comoriens de Mayotte, comme la loi de 2018 avant elle. Pour des milliers d'entre elles et eux, souvent très jeunes, c'est une porte claquée dans la figure et la menace constante d'être expulsés aux Comores, un pays qu'elles et ils ne connaissent souvent pas après avoir vécu toute leur vie dans le 101e département français, plus que jamais dans la tourmente. Oh, my, look, oh, my, see, oh, my, see, oh,
bolo Angoni apanga yonso wombe viliba Aminga ya malingza nongma Chéri ya malingza karma
France Cameroun, histoire d'un livre. Texte d'Odile Taubné, veuve de Mongo Betty, qui revient sur la censure du livre de son époux, Mambas sur le Cameroun, disponible aujourd'hui chez La Découverte. Un épisode éclairé d'un jour nouveau par le récent rapport Ramondi. Le rapport Ramondi sur le rôle de la France dans la guerre du Cameroun au moment de la décolonisation documente minutieusement cet épisode des pages 825 à 832. Le 15 janvier 1971, le chef de l'Union des populations du Cameroun, Ernest Wandier, est exécuté publiquement à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, après sa capture en août 1970 dans le maquis Bamileke et son procès hors de toute règle de droit en décembre de la même année à Yaoundé. Mongo Betty, écrivain camerounais installé en France, décide d'exposer ces faits et leur contexte dans un livre parce qu'ils étaient relatés à l'époque avec omission et désinformation dans Le Monde. Il pose les événements dans le contexte de l'histoire du Cameroun colonisé. En janvier 1972, il envoie la copie de son manuscrit à deux maisons d'édition, Le Seuil, pour la collection Histoire immédiate, dirigée par le journaliste Jean Lacouture, et Robert Laffont, pour une collection analogue, dirigée par l'historien Max Gallo. Or, le rapport Ramondi nous révèle que des pages du livre se retrouvent le même mois au secrétariat général de la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches, c'est-à-dire chez Jacques Focard, grand Manitou de la France-Afrique. Un éditeur a donc laissé fuiter le manuscrit, mais lequel ? Quel éditeur a été le délateur ? Il se trouve que Mongo Betty reçoit en février une lettre de Jean Lacouture qui refuse son manuscrit. Non pas une lettre banale et polie comme on en voit chaque jour les éditeurs, mais méprisante, malveillante et injurieuse, tout à fait étonnante de la part d'un soi-disant anticolonialiste. Le rapport documente ensuite le balai des missives échangées entre les services de Focard qui exigent l'interdiction préalable de l'ouvrage, le ministère de l'Intérieur, où Raymond Marcellin considère que c'est illégal, et le ministère des Affaires étrangères, où Maurice Schumann n'est pas contre. Focard l'emporte et en avril, un policier des renseignements généraux, la police politique d'alors, se présente au domicile de l'auteur pour demander chez quel éditeur va paraître le livre. Il n'attendait pas vraiment une réponse, mais escomptait sûrement que l'effet d'intimidation puisse suffire à décourager toute publication. Puis deux policiers civils de la police nationale cueillent l'auteur à la sortie du lycée où il enseigne et lui demandent ses papiers, en l'occurrence un passeport français périmé, l'auteur n'ayant pas quitté le territoire depuis des années. Mongo Betty tient bon et le livre sort fin juin aux éditions François Maspero. Il s'agit bien sûr de Mambas sur le Cameroun. Dès le 30 juin, le ministère de l'Intérieur signe un décret d'interdiction au motif qu'il s'agit d'un écrit de provenance étrangère. Pour justifier ce motif, une offensive de la police parallèle de Focard est ensuite lancé pour tenter de priver l'auteur de la nationalité française, offensive tellement grossière dans ses procédés que Mongo Betty prend un avocat et assigne l'État pour excès de pouvoir. Lors du procès au tribunal de grande instance de Rouen, le procureur reconnaît d'emblée que l'État s'est fourvoyé. Maspero obtient alors l'annulation du décret d'interdiction par le tribunal administratif. Fin de l'épisode. Le 8 juin 1983, à l'occasion d'un voyage de François Mitterrand au Cameroun, Le Monde publie l'article d'un certain Jean-François Bayard intitulé « Les enjeux de la mémoire ». Derrière ce titre pompeux s'étale un exposé complaisant de la relation de la France avec Amadou Ahidjo, féroce dictateur camerounais jusqu'en 1982, dont il fait l'éloge et qui est présenté comme la victime d'un pamphlet exécrable, c'est-à-dire Mambas sur le Cameroun de Mongo Betty, qui ne serait fait que de clichés. On ne voit pas comment des clichés, idées courantes de Monsieur Tout-le-Monde, qui par définition ne choquent personne, auraient pu susciter la fureur vengeresse du lobby colonial. Mais la logique n'est visiblement pas le fort de Bayard. Ce politologue, issu d'une famille de colons français au Cameroun, est l'auteur d'une thèse soutenue en 1977 sous la direction de Pierre Alexandre, ancien administrateur colonial au Togo et au Cameroun, recyclé après 1960 au Langzhou, langues orientales, en spécialiste des langues bantoues, sans en parler aucune. Dans cette thèse, publiée 2 ans plus tard sous le titre « L'État au Cameroun », Jean-François Bayard décrit la société camerounaise qui vient de subir 2 décennies d'une guerre sanglante entre résistants nationalistes et armées coloniales et néocoloniales comme traversée par un conflit traditionnel entre aînés et cadets sociaux et autres calembredaines ethnologisantes. Tel est le quidam qui a jugé bon de déposer un étron sur le livre de Mongo Betty alors que les jeunes Camerounais y découvraient enfin leur histoire. African Parks ou la conservation forteresse. Journaliste néerlandais Olivier Van Biemen vient de publier « Au nom de la nature », réquisitoire implacable contre African Parks que la France continue pourtant de soutenir malgré des alertes répétées aux violations des droits de l'homme commises par cette ONG. Le titre complet du livre d'Olivier Van Biemen est « Au nom de la nature, enquête sur les pratiques néocolonialistes de l'ONG African Parks », édition Rue de l'Échiquier, 2025. L'ouvrage se lit avidement comme un roman d'aventure ou un bon polar. En une succession de chapitres courts et incisifs, l'auteur, journaliste néerlandais, déjà auteur d'une enquête sur les pratiques de l'entreprise Heineken en Afrique, nous fait partager ses 3 années de recherche passées d'une part à scruter son écran d'ordinateur à l'affût de la moindre trace documentée d'African Parks, et d'autre part, à aller à ses risques et périls sur le terrain. Du centre au sud et d'est en ouest de l'Afrique, il a approché au plus près, car African Parks l'empêche d'y pénétrer, les réserves dites naturelles gérées par l'ONG. Tout a commencé en Hollande. Paul Fentener van Vlissingen, 1941-2006, appartient à la 9e génération à la tête d'un conglomérat familial, la Steenkolen Handels Vereniging, SHV Holdings, actif dans le charbon, le pétrole, le transport maritime, la construction et à partir de 1968, la vente en gros via la chaîne de magasins Macro. En 1980, il installe le siège statutaire de SHV dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, paradis fiscal, le siège social restant à Utrecht. Macro s'étend à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, avec 5 magasins. La communauté économique européenne lui demande alors de déclarer la couleur de peau de ses employés là-bas, afin de vérifier si elle participe ou non à la politique d'apartheid. SHV refuse. De 1985 à 1987, en représailles, l'action révolutionnaire antiraciste, RARA, brûle des macros aux Pays-Bas même. Les assureurs se dérobant, Macro doit finalement quitter l'Afrique du Sud. Passionné de chasse depuis l'adolescence, avec son père et des membres de la famille royale, Paul van Vlissingen a tué du gibier dans son pays, mais aussi des éléphants en Afrique. Il possède d'ailleurs le Pitzel Lodge, une propriété dans une réserve animalière privée sud-africaine au nord de Pretoria, tout près du parc national de Marakele. En 2000, il crée la société Marakele Park, achète des terres aux agriculteurs des environs pour des montants au-delà du prix du marché, puis signe un partenariat public-privé avec le parc national, s'engageant à agrandir la réserve naturelle. Cette région est composée à l'est de massifs rocheux verdoyants, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, et à l'ouest de Bosvelt, c'est-à-dire de prairies couvertes de hautes herbes, broussailles épaisses, arbustes et, les dominants, de marulas. Endroit idyllique où préserver la nature sauvage, n'est-ce pas? Eh non, vous avez tout faux. Marekele, sanctuaire en Tswana, porte désormais mal son nom. Van Vlissingen veut y expérimenter son concept bien à lui de protection de l'environnement. Recourant à des bulldozers, il fait raser tout ce qui rappelle une présence humaine, ferme, appartenant à des fermiers blancs, baraque du personnel, pour les noirs, clôtures et poteaux téléphoniques, de même que les épais fourrés. Et pourquoi? Parce que le dense Bosveld n'est pas idéal pour les safaristes, car il empêche de bien voir les animaux. Van Vlissingen veut en faire une savane, comme en Tanzanie, ou introduire les Big Five, les cinq gros, expression désignant dans le jargon attrape-touriste, les cinq espèces considérées comme les plus difficiles à chasser, buffle, lion, léopard, rhinocéros et éléphant. Fille des humains, ils ont dégagé, mais aussi fille des vautours, reptiles et espèces végétales qui faisaient la spécificité scientifique de ce parc national. Celui-ci est certes maintenant agrandi en une seule vaste entité, mais l'accès à la partie appartenant à Van Vlissingen, où, comme par hasard, ont été creusés les points d'eau pour les animaux, spectacle fascinant assuré, est réservé à des tarifs exorbitants aux riches de la planète. Marekele Park, sans jamais appartenir formellement à African Parks, deviendra ainsi le prototype de la marque Van Vlissingen. Désormais, des centaines d'animaux seront délocalisés à coups faramineux d'une zone à l'autre de l'Afrique. Ce ne sera pas toujours une réussite pour la survie des espèces, contrairement à ce dont se vante African Parks. Parallèlement, à Johannesburg, en juillet 2000, trois passionnés de faune sauvage impliqués dans la gestion du parc national d'Afrique du Sud, Peter Fearnhead, blanc né en 1969 en Rhodésie, futur Zimbabwe, Anthony Hall Martin, spécialiste des éléphants, et Mavuso Msimang, noir ancien combattant du Congrès national africain, ANC, fondent avec leur ami banquier Michel Eustace l'African Parks Management and Finance Company, société à but lucratif qui souhaite administrer des réserves naturelles sur une base commerciale en mettant l'accent sur le tourisme. Espérant du financement, il contacte le milliardaire néerlandais et tombe sur plus habile requin qu'eux. Van Vlissingen leur coupe l'herbe sous le pied en créant en 2003 à Utrecht sa propre entreprise African Parks BV et fait d'eux ses actionnaires minoritaires. Pour rassurer les chefs d'État africains méfiants envers une société commerciale prétendant assurer la protection de l'environnement en dégageant du profit, ils créent dans la foulée l'ONG African Parks Foundation, APF. De 2003 à fin 2005, celle-ci réussit à convaincre 5 pays de lui confier la gestion complète de réserves naturelles: Malawi, Zambie, Soudan, Éthiopie, République démocratique du Congo. Milliardaires, Union européenne, Agence américaine pour le développement et même le gouvernement néerlandais acceptent de la subventionner. Des personnalités acceptent de lui prêter leur nom pour appuyer ses demandes de fonds, et parmi elles, le français député, plusieurs fois ministre, Michel Barnier, ou le richissime homme d'affaires et futur président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Van Vlissingen mort, Peter Fearnhead lui succédera fin 2006 à la tête d'APF, la fondation, créant ainsi à Johannesburg African Parks Networks. Son homonyme est père, épinglé par les Panama Papers, habitant sur l'île de Man. Une grande partie des transactions financières d'African Parks passera par ce paradis fiscal. Sans surprise, Fearnhead Jr. refuse de dévoiler son salaire. C'est confidentiel. En 2021, African Parks admet dans son bilan annuel 252 000 euros pour son directeur. En fait, de même que d'autres administrateurs d'African Parks, il gagne davantage via une kyrielle d'organisations ou sociétés dont lui et ses apparentés se partagent les émoluments avec des descendants de Van Vlissingen. Après 20 ans d'existence en 2023, African Parks gère 22 parcs dans 12 pays sur une superficie globale de 20 millions d'hectares. Qu'on ne s'y trompe pas, la courbe de croissance n'est pas régulière. Ainsi, en Éthiopie, face aux résistances des autochtones, African Parks a-t-il dû abandonner dès 2008, après à peine 3 ans de gestion, les parcs de Nech Sahar, 463 maisons brûlées et des milliers de personnes expulsées pour faire place nette, et de Lomo. Autre résistance en amont, le Sénégal, malgré les sollicitations, refusera de signer tout contrat avec African Parks, de même que le Kenya. Hélas, les mouvements de révolte locaux n'ont pas tous été couronnés de succès, loin de là, car African Parks prétend, dans ses contrats, exercer tous les pouvoirs régaliens dans les zones naturelles qu'elle contrôle, et d'abord, celui d'y assurer la sécurité. C'est ce point justement qui lui attirera le soutien de donateurs puissants et de bénévoles. Mais la sécurité de qui ? Prenons l'exemple en RDC du gigantesque parc de la Garamba, 5000 km² et des 3 domaines de chasse réservés, le Jouxtan, eux-mêmes entourés de villages et petites villes groupant une population d'au moins 200 000 habitants. Un troupeau d'éléphants détruit-il les champs d'un village ? Un hippopotame broie-t-il la jambe d'un jeune garçon ? Les victimes peuvent toujours attendre d'être correctement soignées et indemnisées. Il en est ainsi dans tous les parcs. Par ailleurs, permis de pêche ou de chasse du petit gibier, d'orpaillage artisanal, de récolte du bois, de fruits et de plantes médicinales, sans parler d'accès pour des cérémonies religieuses ou honorer des défunts enterrés là, sont accordés de façon parcimonieuse ou carrément refusés. Face aux plaintes, African Parks se déclare non concerné car se contentant d'appliquer les lois du pays. Les rangers reçoivent une prime pour toute arrestation, très souvent arbitraire. Les habitants accusés de braconnage quand ils survivent aux mauvais traitements, c'est un euphémisme, infligés par les rangers, subissent ceux de la police locale. Les manifestations sont nombreuses, camions pillés, bureaux brûlés, et durement réprimées. Dans la Garamba en 2019, à la Pendjari au Bénin en 2018, au Congo-Brazzaville en Zambie. Que fait African Parks à chaque fois ? Elle déplace ses bureaux en des lieux inaccessibles aux locaux. Les autochtones ont pourtant de quoi être énervés. La chasse à l'éléphant et autres Big Five est autorisée au moins dans 3 réserves d'African Parks. Dans la Pendjari au Bénin, à Chico, Centrafrique, et à Bangvelu au Zambie. Un touriste chasseur ne rapporte-t-il pas plusieurs fois plus qu'un touriste photographe ? Quant à l'exploitation minière de l'or, African Parks s'en accommode très bien si elle est le fait d'une joint-venture telle que Kibali Gold Mine, qui jouxte et finance en partie le parc de la Garamba. Les rangers sont à bonne école, les instructeurs sont blancs et proviennent majoritairement d'Afrique du Sud, d'Israël et de France. Notre pays n'a pas de scrupules à soutenir African Parks par l'aide française au développement, via l'Union européenne ou directement. Mais aussi par l'intervention de notre armée, comme le 10 février 2022 à proximité du parc béninois W, à la frontière entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, suite à des attaques djihadistes contre les rangers dépassés. Leur instructeur, en chef, ex-militaire français, sera parmi les victimes. Car African Parks n'hésite pas à outrepasser son mandat en effectuant des missions de contrôle des frontières. À cela s'ajoute qu'African Parks se fait un pactole de plus en plus grand avec les crédits carbone. Vous conclurez vous-même. Bonne lecture de ce livre. Texte de Nicole Maillard-Deschenant.